Ok, on va prier si vous êtes d'accord. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons pu entendre déjà ce matin. Merci Seigneur, car tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Et je veux le redire, tu es un Dieu fidèle. Dans nos besoins, dans nos manquements, dans l'accomplissement de ta parole, le fait que tu gardes ta parole, tu es un Dieu fidèle. Et Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous pouvons pleinement te faire confiance. Parce que tu es un Dieu fidèle. De la même manière que tu as délivré le peuple d'Israël dans cette première Pâque, même si ils entendaient des cris de douleur, d'angoisse, de pleurs, tu étais avec eux parce que tu es fidèle. Et ce matin, on te demande, Père de gloire, que tu puisses toucher notre cœur à travers ta parole. Utilise ma bouche pour que je puisse être clair dans la manière de m'exprimer. Mais surtout, Seigneur, corporellement, parle à ton Église. Parle-nous. Nos cœurs sont prêts à recevoir ta parole. Afin qu'elle puisse produire des fruits pour la gloire de ton nom. Et on prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bien d'être ici parce qu'on peut voir tous les visages. Même s'il y a les lumières qui scintillent, tout ça, ça m'aveugle pas. Parce que vous brillez bien plus. Parce que Christ, la lumière, est en nous. Et c'est bien plus beau de voir des visages transformés. Non, c'est super. On va prendre un verset avant de rentrer dans ce que le Seigneur a mis à cœur. J'ai demandé à Pasteur Tony le sujet qui m'a donné deux versets. Et c'est, en tout cas, je me suis régalé pour faire un peu des recherches. Le premier verset, c'est Ésaïe chapitre 53, le verset 6. Nous étions, pardon, j'attends. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Encore une fois. Nous étions tous errants, comme des brebis. Mais c'est surtout cette partie qui m'intéresse. Chacun suivait sa propre voie. Et c'est drôle parce que nous sommes dans une société où, on va dire, chacun pour soi, chacun a son Dieu, chacun croit dans ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui semble bon. Ça me fait penser un peu dans le livre de Nombres, dans le livre de Juges. Chacun suivait sa propre voie. Le problème, c'est que quand chacun suit sa propre voie, qui dit vrai? Quel son est clair? Quelle direction prendre? Qui écouter? Qui ne veut de bien? Qui ne veut de mal? Et le livre de Juges, il est rempli d'exemples, à tel point que les deux derniers chapitres, c'est vraiment très ténébreux, funeste, et certainement pas édifiant. Sans donner des détails, un homme qui coupe sa concubine ne rentre pas dedans. C'est vraiment très... Mais, heureusement que dans la pensée du Dieu, ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que nous, naturellement, on peut suivre chacun sa voie et on se base sur rien de tout. C'est comme si nous sommes dans un désert, rien tout autour, pas de boussole, pas de téléphone, on n'a rien. Et on essaye d'aller dans une direction et il y a même certains spécialistes qui pensent que comment il y a un pas qui est un peu plus grand que d'autres, en fait, on tourne en rond. Chacun suit sa propre voie. Et là, ça m'amène à ce que, un verset que Pasteur Tony m'a donné pour préparer aujourd'hui. C'est Tite, chapitre 2, verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. Et là, on va voir que c'est, on n'a plus besoin de suivre chacun sa propre voie. Nous avons la voie que le Seigneur a établie pour nous. Le verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors, quand on le voit au premier abord ce verset, c'est édifiant parce que nous avons la grâce de Dieu, que Dieu nous accorde sa grâce, c'est-à-dire qu'il nous accorde ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, il nous accorde la miséricorde, il ne nous donne pas ce que nous méritons. Je répète peut-être. La miséricorde, Dieu ne me donne pas ce que je mérite. La grâce, Dieu me donne ce que je ne mérite pas. Déjà, on peut s'arrêter là et dire merci Seigneur. Source de salut pour tous les hommes a été manifesté. Le mot source de salut en grec, ça nous parle soterio, qui signifie qui sauve, qui apporte le salut, celui qui incarne le salut. Mais ce mot-là, cette racine source de salut, vient d'un autre mot grec qui signifie soteria. Et là, ça nous parle de la délivrance. Lorsqu'une femme accouche et que c'est ce mot-là qui est utilisé, soteria, et on parle toujours de cette expression, elle est délivrée des douleurs de l'enfantement. Mais nous, c'est délivré, mais de quoi? Alors, je vais essayer de parcourir un tout petit peu la Bible. Et ce que j'aimerais vous montrer ce matin, c'est qu'il n'y a pas 10 000 chemins. Il n'y a pas 10 000 possibilités. Et il n'y a pas 10 000 choix. Il y a un seul choix que Dieu a établi. Qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord. Ou ça fait un peu très légaliste. Jésus nous dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors soit Jésus c'est un menteur, soit il est véritable, le véritable chemin. Mais remontons un peu dans l'Ancien Testament. Laetitia, est-ce que je vais trop vite ou pas? Ok, pardon si je vais trop vite. Revenons, donc Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Là, nous allons nous balader dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. Tout est magnifiquement merveilleux, tout ce que le Seigneur a fait. Genèse chapitre 3, il y a la chute. Ça veut dire où l'homme a choisi volontairement de détourner le Dieu, le dos, de se détourner de Dieu. C'est pas qu'il est tombé par hasard, c'est qu'il a choisi. N'oubliez pas, en grec, le mot péché, c'est manquer la cible volontairement. La porte, elle est là, je décide de la louper et de prendre la fenêtre. C'est à peu près ça. Donc là, nous avons donc Genèse chapitre 3, donc l'homme et la femme, ils mangent. On va lire un peu les versets, pas besoin de tourner. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et là, on peut s'arrêter, je dis, waouh, Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel gardait et cultivait l'être humain. Relation. Là, il y a le péché qui est arrivé, boum, la relation, elle est séparée. Et en plus, non seulement elle est séparée, mais Dieu me fait peur. Quelqu'un qui a pris soin de moi un chapitre avant est transformé dans mon cœur par le péché en quelqu'un en qui j'ai peur. Et ça nous ramène encore une fois à Ésaïe 53, verset 10. Chacun suit sa propre voie. Dans le monde, beaucoup de gens, d'une manière ou d'une autre, ils sont religieux. Ils font des choses. Par exemple, on peut appeler ça le Dieu de la nature. On prend soin de la nature. On veut sauver la planète. Comme si on pouvait sauver la planète. le dieu des Égyptiens, le dieu musulman, les dieux chinois, les patriarches, la généalogie, etc. On ne veut pas dévier. On ne sait jamais si le jugement il arrive. Voilà ce que le péché a fait. Ça nous a complètement aveuglés. D'un dieu d'amour, il est passé à un dieu de colère. D'un dieu où j'étais proche, il est passé d'un dieu où il est loin. Mais encore une fois, heureusement, je n'ai échappé tout 3 verset 9. C'est Dieu qui fait le pas. Où es-tu? Oh, je sais déjà tout ce que tu as fait. Où es-tu? J'ai déjà prévu la solution. Où es-tu? Tu t'es caché derrière des feuilles. Ok, ça me va. Où es-tu? Et pour nous aussi, c'est intéressant de se poser la question dans notre vie. Où es-tu, Horatio, avec moi? Peut-être que dans tel domaine, tu ne me crois pas et tu te caches. Peut-être que dans d'autres domaines, c'est ton arrogance, ton orgueil que tu mets en avant. Où es-tu? Et là, le Seigneur donne sa solution. Ce n'est pas une des solutions, sa solution. C'est-à-dire, un innocent doit mourir pour le coupable. L'agneau, l'animal, Dieu l'a tué pour revêtir l'être humain. On peut aller vraiment loin dans la pensée. Je vais essayer de ne pas me perdre. L'animal qui est mort, il n'a rien fait, cet animal. Il mangeait que de l'herbe pour nous revêtir. Nous qui étions nous, nus. Ça nous parle encore une fois de Christ. Christ, il est venu sans péché pour nous revêtir de sa justice. Ça, c'est une parenthèse encore. Mais là, on va entrer, vous allez voir que le plan de Dieu est parfait et qu'il n'y a pas d'autre option. C'est le seul plan que Dieu a choisi. Encore une fois, que le monde soit d'accord ou pas, ça ne change rien. C'est la solution que Dieu a donnée. Ça nous envoie en Genèse, je vous ai dit, on va beaucoup voyager, hein. Ça nous envoie en Genèse 49, verset 10. Vous savez, pour le mettre dans le contexte, juste avant que Jacob, le père des 12 tribus, meure, il fait ce qu'on appelle des prophéties. Parce qu'il dit au verset 1, Genèse 49, 1, et je vais dire ce qui va arriver par la suite de temps. Et là, on arrive dans la tribu de Juda. Et au verset 10, il nous dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alors pour certains, nous avons un peu l'habitude de ce mot, mais je vais quand même répéter. Le mot Shiloh est formé de plusieurs mots. Le premier, c'est Shalomon, ce qui prend comme racine Shala, ce qui signifie être en paix, être dans le repos. Ce Shiloh, si vous regardez la première traduction, ça nous parle de pacificateur. Et en plus, en hébreu, ça a même donné Shar Shalom, qui signifie prince de la paix. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Jésus-Christ, le prince de la paix. Ensuite, dans certaines notes des textes retrouvés dans les grottes de Qumran, ça nous traduit Shiloh par le Messie de justice. Waouh! Quelle promesse Dieu nous fait! Qu'un jour, le Shiloh, qu'un jour, le Messie, le prince de la paix, viendra. Et encore une fois, il viendra pourquoi? Pour nous délivrer. Vous vous rappelez le premier mot que je disais? Soteria, délivrer du péché. Il y a certaines personnes qui vont te dire, désolé Horatio, moi j'étais pas dans le jardin. Non, non, ça marche pas comme ça. D'une manière ou d'une autre, oui, physiquement tu n'as pas été dans le jardin. Mais tu as quand même besoin de délivrance parce que la Bible est claire. Regardez ce qu'il nous dit. Romains 3, 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Alors, verset 10 à 12. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On dirait que je vous déprime avec le message. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme un seul homme a péché, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort. Nous avons tous besoin d'être délivrés. Même celui qui ne croit pas. Mais rappelez-vous que nous avons le prince de la paix qui a été promis. D'ailleurs, pour revenir dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce que le Seigneur dit à la femme? Par rapport à la descendance et le serpent. La descendance de la femme va écraser le serpent et le serpent va mordre le talon. Ça, c'est notre enseignement, sans aller trop dans les détails. Mais voilà, il y a eu la chute. Il y a eu Dieu qui est venu chercher et Dieu qui a fait la promesse. Et ce prince de la paix, ce Shiloh, il a parcouru, on va dire, toute la Bible. Parce que Satan, il a entendu aussi ses promesses. Et ce qui est surprenant, j'avais déjà parlé il y a quelques temps en arrière, chaque fois qu'il y avait un événement particulier, Satan utilisait le monde pour tuer, pour empêcher le Messie de venir. Rappelez-vous avec Moïse, le Pharaon, il disait, il a utilisé l'excuse en disant, ils sont trop nombreux. Jetez les enfants au Nil. Rappelez-vous avec la venue du Christ, Rachel pleure ses enfants. Il faut tuer tous. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à la naissance de Christ, c'est des étrangers qui ont remarqué quelque chose de particulier dans le ciel. Pourquoi c'est pas des juifs? Et selon certains commentateurs, ils ont suivi cette étoile-là depuis pas un jour. Depuis des mois, ils l'ont suivi. Et lorsqu'ils sont arrivés vers Hérode, il a dit quoi? Il est où le roi? Le roi des Juifs est arrivé, il est où? Waouh! Il est où Shiloh? Le prince de la paix. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'Hérode dit? Je vais aller l'adorer. Mais encore une fois, c'est encore les puissances de ce monde ténébreux qui sont, peu importe comment on les appelle, s'opposent toujours à la volonté de Dieu. Je vais l'adorer. Je vais aller dans l'église pour trouver quelqu'un, un ami ou autre. Il y a des non-croyants qui se glissent dans les églises et malheureusement, ça déverse de poison. Ça existe aussi. Christ nous a enseigné qu'il y a des loups qui s'infiltrent dans les églises. Mais on va revenir après, par la suite. Donc Hérode veut liquider le roi des Juifs. Hérode veut liquider la promesse de Dieu, comme s'il pouvait. Vraiment, l'être humain, il est tordu, il est, pour pas dire d'autre mot, il est aveuglé en pensant qu'il peut s'opposer au plan de Dieu. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Et parfois, c'est là que c'est surprenant. Même si c'est Dieu qui a le dernier mot, l'homme, aussi stupide qu'il est, on croit que c'est nous qu'on a eu le dernier mot. Lorsque Jésus il a été crucifié à la croix, ça y est, on l'a liquidé. Ça y est, parce que rappelez-vous déjà, à partir de Luc chapitre 9, on a trouvé le moyen de le tuer et on l'a réussi. C'est quel aveuglement. Mais cela fait partie de la promesse de Dieu. Cela fait partie de ce ministère que le Shiloh, le prince de la paix, devient accomplir. Dieu n'est pas surpris en disant, oh là là, j'étais surpris qu'ils ont tué mon fils. Vous savez pourquoi? Parce que le Shiloh, Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Regardez les versets. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est lui. Même si le monde, même si le diable, même si nous, on s'oppose au plan de Dieu, c'est quand même Dieu qui a le dernier mot. Donc, Jésus-Christ n'est pas une option. Jean chapitre 1, au commencement était la parole, verset 1. La parole était avec Dieu. La parole est avec Dieu. Et Dieu. On nous parle de l'incarnation. L'incarnation, c'est pas que je vais me transformer en guêpe ou en moustique ou en autre chose. L'incarnation, ça nous parle d'un acte qui est devenu chair. Ça, c'est la racine latine. Dans d'autres mots, ça nous parle tabernacler ou habiter. La parole, logos, est la tabernacler avec Dieu. Et en Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle, excusez-moi de ce mot technique, l'union hypostatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la divinité et l'humanité de Christ en un seul corps. C'est un peu technique, c'est pour ça que je ne vais pas me perdre là-dedans. Mais je veux dire par là, c'est que Christ devait venir et payer pour le péché. Dieu l'a promis dans Genèse chapitre 3, dans Genèse chapitre 49, dans toutes les prophéties, qui devait, ce que le Messie devait faire. Si Dieu venait dans sa gloire, dans sa puissance, c'est pas qu'il ne pouvait pas nous sauver, mais il fallait que le sang coule pour le coupable. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas mais à la vie éternelle. Il fallait que Christ meure physiquement. Et tout au long de le livre d'Hébreux, ça nous parle qu'il est le parfait, souverain, sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Est-ce que Christ peut compatir envers un être humain qui meurt de faim? Oui. Parce qu'il avait faim. Pour quelqu'un qui a de l'angoisse, oui. Pour quelqu'un qui a été abandonné, oui. Pour quelqu'un qui a été rejeté même par sa propre famille, oui. Pour quelqu'un qui est incompris, oui. Christ est la réponse que Dieu a donnée. Je vais dire différemment. Dieu est la réponse de ce que lui il a promis. Il n'y a que Dieu qui pouvait accomplir. Il n'y a que Dieu seul qui pouvait racheter la race pervers, déchue, pécheresse, etc. Il n'y a que lui qui pouvait faire cela. Et vous savez pourquoi? Dieu n'est pas un Dieu changeant. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 15. Il nous aimait, il a pris soin de nous, il veut continuer à prendre soin de nous. C'est pour ça que quand on parle dans Jean 3, 16, car Dieu a tant agapéo, aimé sans condition. Et nous, nous sommes un peu dans ce chemin-là. Ok, nous nous sommes convertis, c'est vrai, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est bon de le savoir. Mais est-ce que c'est pas mieux de le vivre? Parce que nous, en tant que chrétiens, moi le premier, hein, on prend Jésus comme option. Et je me dis, mais pourquoi? Prenons un exemple. Seigneur, dans tel domaine, prenons les finances. Dans tel domaine, Seigneur, je n'y arrive pas à gérer. Tu peux prier, c'est un cœur sincère, etc. Mais tu ne veux pas compter sur lui parce que tu vas décider de faire par tous tes propres moyens pour pouvoir résoudre ta sauce, pour pouvoir résoudre tout ce qu'en fait tu ne contrôles pas. Nous souvent en tant que chrétiens, on a la vérité qui est la parole, mais on ne la croit pas pleinement. Je comprends aussi que parfois les circonstances, je comprends aussi que le péché qui est en nous, nous aveugle parfois. comme Abraham, il a eu la promesse de Dieu, voilà, un enfant te sera donné. Mais ils ont quand même aidé le plan de Dieu, qui n'était pas le plan de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, on peut se retrouver dans tellement de domaines comme ça. Nous avons la vérité. Nous avons peut-être même expérimenté certaines choses vraies dans notre cœur. Mais dans beaucoup de domaines, on prend Christ comme une seconde option. Et c'est pas du tout le plan de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire comme Ésaïe 53:6. Nous n'avons pas besoin de suivre notre voie chrétienne. Christ est la solution dans tous les domaines de notre vie. Que je me sens bien ou pas. Que je suis malade ou pas. Que je suis handicapé ou pas. Que je suis avancé en âge ou jeune. Christ, ce sera toujours la solution. Pas une des solutions, la solution. Dans notre famille, dans nos couples, dans nos relations, qui sont parfois entachées, comme je disais tout à l'heure, par notre orgueil, par notre incrédulité, par peu importe ce qu'on veut mettre là-dedans, Christ est la solution. Seigneur, dans ce collègue-là, il est tellement vulgaire et ça me dérange, mais je n'ose pas. Seigneur, je veux puiser de toi. Je veux compter sur toi. Je veux que tu m'enseignes ce que toi tu veux dans la situation et me donner de courage. Parce que tu es la solution. Ce que nous allons faire samedi prochain, la fête de Noël, c'est bien, c'est génial. Nous sommes ensemble. Christ, il est au milieu, il va se réjouir. Et pourquoi on ne tourne pas notre regard vers l'extérieur? Et Seigneur, tant de personnes meurent sans te connaître. Tant de personnes vivent dans un superflu sans te connaître. Utilise-moi, Seigneur, parce que tu es le chemin. Je n'ai pas envie, Seigneur, que tu sois une option de ma vie. Je veux, Seigneur, que tu contrôles ma vie. Je n'ai pas envie que tu sois le second de ma vie. Je veux que tu sois le premier de ma vie. Parce que lorsque tu es le premier de ma vie, Seigneur, les montagnes vont bouger. Lorsque tu es le premier de ma vie, je peux impacter ceux qui m'entourent. Lorsque tu es le premier de ma vie, malgré ce qu'on entend, les troubles, tout ce, peu importe, malgré la noirceur de tableau extérieur, Seigneur, je peux briller. Seigneur, je peux te connaître. Seigneur, je peux être dans la flamme, comme les trois amis de Daniel, Daniel 3, dans la flamme, mais avec toi. Seigneur, je peux montrer par ma vie que tu n'es pas une option, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, par ma vie, d'autres personnes peuvent être touchées parce que tu n'es pas une option. Tu n'as jamais été une option. Nous avons chuté. Tu nous as fait la promesse. Tu as accompli la promesse. Et aujourd'hui, on veut vivre cette promesse. C'est tout ce temps de Noël. Considérons pas Christ comme un des chemins ou une option parmi d'autres. Christ est le centre. Christ est le centre. Et lorsque je disais tout à l'heure, Dieu est fidèle, il est fidèle. Nous avons besoin de réaliser que, Seigneur, tu n'es pas une idéologie. Tout comme pour le sacrifice, tout comme la culpabilité qui peut nous ronger. Christ est la réponse. Christ est le seul chemin, vérité et vie. Le seul. Et c'est pour ça que tout au long de l'histoire d'Israël, ils ont toujours pris la parole de Dieu, parfois comme un acquis, mais souvent comme une deuxième option. Alors que ça ne devrait pas. Moi, je crois que dans les temps qu'on vit, avant la venue de Christ, qui est, merci Seigneur, très proche, je crois qu'on peut vivre dans le repos, dans la paix. dans la communion fraternelle, comme la première église qui persévérait dans l'enseignement, la fraction de pain, la prière, la communion. Je crois que dans ce monde, comme Pasteur Tony a cité il n'y a pas très longtemps, on peut être comme ce vaillant héros de David qui se tenait dans le champ de lentilles et y défendait. Nous aussi, on peut se tenir debout pour défendre le nom de Christ. Lorsque Christ n'est pas une option, nous pouvons aider plus que vainqueurs. Lorsque Christ est le centre ou pas une deuxième option, nous pouvons vivre réellement sans condamnation, sans culpabilité, sans colère, sans arrogance, sans tout ce qu'on veut mettre là-dedans. Dieu n'a jamais pris Christ comme seconde. Dans certaines traductions, ça nous parle, le Fils, par exemple, au baptême, ou sous la montagne de transfiguration, ça nous parle, mon Fils bien-aimé. Mais dans d'autres traductions, ça nous parle de mon Fils, l'élu. Il est, qu'on soit d'accord ou pas, il est. C'est comme Daniel quand il explique le rêve à Nebuchadnezzar. Attention, Dieu est Dieu. Il est, que tu le veuilles ou non. Mais écoute mon conseil. Résiste pas. Obéis. Et nous connaissons l'histoire où il n'a pas obéi. Mais voilà, nous, je crois qu'autant que chrétiens, c'est un danger qui nous guette de prendre Christ comme route de secours. Alors que ce que Dieu, tout au long des proverbes, ça nous parle, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Seigneur, cette situation, ça me dépasse, je n'y arrive pas. C'est pas grave. Mets cette situation en second plan. Et mets-moi dans le premier plan. Et je vais finir par un seul verset. Parce que je pense que c'était vraiment riche. Mais ce verset-là, il va nous résoudre, il va nous conclure plutôt tout le message. Je ne sais pas trop pourquoi je suis allé dans ce sens, parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai préparé, mais je crois que c'était important pour ma propre vie. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela vous serait donné par-dessus tout. Pas secondement, premièrement. Lorsque nous gardons notre cœur, lorsque nous gardons notre regard, Seigneur, sois le premier de ma vie. Parce que c'est possible, parce que toi, tu vas t'occuper de tous les autres détails. Mais voilà, Dieu nous a créés. Le raccourci de la Bible. Nous avons shooté. Dieu est venu nous chercher. Dieu a fait la promesse. Dieu a accompli la promesse. Et aujourd'hui, nous vivons la promesse. Voilà la bonne nouvelle. Donc pour ce Noël, c'est bien d'être en famille, c'est bien tout ça. Même pour samedi prochain, priez avec nous. Seigneur, on veut expérimenter les premières choses avec toi, les prémices avec toi, des conversions. Samedi prochain, pensez-vous que c'est possible d'expérimenter des conversions? Moi, je crois que oui. Pensez-vous que samedi prochain, toutes ces personnes qui vont venir, pensez-vous qu'ils peuvent voir Christ? Moi, je vous le dis, oui. Parce que Christ est le premier dans notre propre vie. Mais voilà, arrêtons de chercher Dieu par tous les chemins possibles. Parce que Christ est la réponse. Christ est le chemin. Christ est l'élu. Vivons cette vérité, vivons cette cette promesse que Dieu nous a faite. Il n'y a pas d'autre option. Et peut-être qu'encore une fois, pour l'extérieur, ils ne supporteront pas cette vérité. Ça ne change rien. Ça ne change rien en ce qu'il est Christ. Mais voilà, pour revenir au verset principal, source de salut. Il n'y a que lui qui délivre. Il n'y a que lui qui sauve. Pas juste de péché, mais dans tous les domaines de notre vie. Amen. Je ne veux pas aller plus loin, mais voilà, pense à ça. C'est juste merveilleux. Vivons cette promesse. Et mettons Christ premièrement.